Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Vendredi et samedi prochain, les 28 membres de l'Alliance Atlantique se réuniront en sommet à Varsovie. Un sommet d'autant plus critique pour cette alliance politique et militaire vieille de 67 ans qu'elle intervient dans un contexte international tendu sur tous les fronts. Au nord, où les États baltes et la Pologne craignent la menace russe, à l'est, à la zone frontière, derrière laquelle se situent l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, tous sous la pression de Moscou. Tension au sud, bien évidemment, où la Turquie, pays clé de l'Alliance, vient d'être durement frappée par Daesh. Et même tension à l'ouest, puisque la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne fragilise les équilibres acquis. Comment donc s'entendre à 28 sur l'attitude et les mesures à adopter face à Vladimir Poutine? Jusqu'où l'Alliance doit-elle s'impliquer au Moyen-Orient dans la lutte contre Daesh? Quel peut être le rôle de l'Union européenne au-delà des secousses du Brexit au moment où Bruxelles appelle les pays membres à plus de coopération en matière de défense? Quel testament enfin attendre de Barack Obama, dont ce sera la dernière grande apparition en Europe avant la fin de son mandat? Ce sont toutes ces questions que nous allons explorer grâce à vous. Alexandra de Hoop-Scheffer, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le bureau de Paris du German Marshall Fund des États-Unis et vous êtes co-rédactrice en chef de la revue Politique américaine. Thomas Gomard, vous dirigez l'Institut français des relations internationales. Bruno Tertrais, maître de recherche et directeur de la Fondation pour la recherche stratégique et interviewé et enregistré il y a deux jours à La Haye, Fyodor Loukianov, qui est le directeur russe de la revue et de l'institut Russia for Global Affairs. Bruno Tertrais, je commence avec vous. Quelles vont être les priorités de ce sommet? Seront-elles politique ou militaire, ou est-ce que la distinction n'a plus lieu d'être depuis longtemps?
Je crois qu'effectivement, la distinction politique et militaire est relativement artificielle, puisque le message politique que l'Alliance va chercher à faire passer, il passe aussi par des mesures d'ordre militaire. Je m'explique. Le message essentiel, c'est d'adresser à Moscou, à la Russie, un ensemble de messages, justement, qui consiste à dire que nous ne serons pas divisés, nous ne serons pas affaiblis par la politique russe dans le voisinage de l'OTAN. Nous sommes unis, nous le restons. Alors ça sera un petit peu plus difficile à dire maintenant que la Grande-Bretagne a voté pour son retrait de l'Union européenne, parce que après tout, c'est quand même pas une très bonne nouvelle pour l'OTAN non plus, parce que c'est un des piliers de l'OTAN, ça va être un pays affaibli. Et il y aura aussi un message d'ouverture au dialogue, parce que certains pays de l'Alliance insistent pour dire à Moscou que, voilà, on n'est pas dans une nouvelle guerre froide. Ce qui est vrai, c'est autre chose, c'est froid, mais ce n'est pas la guerre froide traditionnelle, et donc le dialogue reste possible. Et en même temps, il faudra aussi rassurer les pays de l'Alliance les plus inquiets par l'activisme russe à leurs frontières, je pense en particulier à la Pologne et aux pays baltes, mais pas seulement, et donc il y aura des mesures de réassurance militaire qui vont être prises, tout en maintenant, à ce stade, les engagements qui ont été pris depuis longtemps vis-à-vis de la Russie, à savoir qu'on ne mettrait pas de forces militaires massives en permanence.
Pas de forces militaires massives, mais il y a eu un renforcement de bataillons mobiles qui se succèdent en quelque sorte et qui sont stationnés, non pas dans un pays frontière, mais en l'occurrence en Pologne.
Un bataillon, c'est environ 700 hommes. 700 hommes, 700 personnes. On est très très loin du type de concentration de force qu'on avait au temps de la guerre froide. On est aussi très très loin du type de concentration de force qui existe du côté russe, avec tout de même des exercices notamment qui impliquent plusieurs dizaines de milliers de soldats. Simplement, ce sont des mesures symboliques, mais les symboles, ça compte, surtout pour rassurer les pays membres, surtout qui demande en particulier que l'Amérique ait une présence pour marquer son engagement continu à défendre les frontières de l'Alliance dans toutes les circonstances, et aussi, bien sûr, pour marquer à Moscou que le territoire de l'Alliance est, non pas sacré, mais en tout cas est couvert par une garantie de sécurité collective, et que nous n'allons pas nous laisser intimider par les Russes, quelles que soient les intentions de Moscou. Personne ne pense que Moscou va envahir demain les pays baltes, mais en tout cas, il s'agit d'éviter de donner la tentation à certains à Moscou d'affaiblir, de renier, de faire des pénétrations discrètes sur le territoire des pays de l'Alliance, parce que malheureusement, ça a déjà été le cas sur le plan aérien et maritime, donc on ne veut pas aussi que ça se passe sur le territoire même terrestre des pays de l'OTAN.
J'ai demandé à Fyodor Loukianov, qui est donc un intervenant intéressant et assez crucial dans ces relations entre la Russie et le monde occidental. Il est suffisamment proche du Kremlin pour avoir des informations et suffisamment libre de parole que pour être intéressant. Je lui ai demandé justement ce que signifie, du point de vue du Kremlin, ce sommet à Varsovie.
Bien entendu, le lieu où se tient ce sommet de l'OTAN n'est pas anodin, d'autant que la dissolution formelle du pacte de Varsovie a eu lieu il y a exactement 25 ans. C'était le 1er juillet 1991. C'était pas à Varsovie, c'était à Prague, mais c'est pas très loin, vous me direz. 25 ans plus tard, donc, l'OTAN se réunit à Varsovie, et c'est donc tout un symbole. La perception russe de l'OTAN monte en puissance, si je puis dire. Malheureusement, de part et d'autre, on a tendance à percevoir plus de menaces militaires qu'il n'en existe en réalité. Et s'il y a un problème dans ce sommet de l'OTAN, c'est que l'OTAN peut vouloir faire une compensation un petit peu modérée, parce qu'il y aura donc des bataillons placés en Europe de l'Est. Il faudra donc rassurer les populations d'Europe de l'Est. Et donc, par souci de compensation, l'OTAN tiendra des propos très durs envers la Russie. Mais ça pourrait être complètement l'inverse du point de vue de la Russie. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, pour certains, les mots sont plus importants que les actions. Et la réaction se fera envers les mots et pas envers les actions. Autrement dit, la remilitarisation du nord de l'Europe, et là je vous parle surtout de la Baltique, devrait se poursuivre, ce qui à mon sens est totalement absurde, parce que en réalité, personne n'envisage une action concrète, alors que tout le monde se sent obligé de se montrer ferme et prêt à agir. J'espère par conséquent que ce sommet de l'OTAN n'amènera pas cette quasi-confrontation à un niveau supérieur, mais il y a un petit risque.
Alexandra de Hoopsefer, on se souvient du sommet de l'OTAN précédent, c'était donc il y a 2 ans au Pays de Galles, la crise en Ukraine, l'annexion par des forces armées russes de la Crimée, qui appartenait juridiquement à l'Ukraine. 2 ans plus tard, jusqu'à quel point est-ce que les divisions au sein de l'Alliance Atlantique par rapport à Moscou se sont creusées ?
Elles se sont quand même creusées au sein de l'Union européenne. On voit que, par exemple, la France et l'Allemagne souhaiteraient justement essayer de renouer le dialogue et assez vite avec la Russie. Hein. Je pense que les discours politiques ont été très clairs là-dessus, tandis qu'effectivement, les pays Est, Pologne et autres, et puis États baltes, eux, continuent à dire que la Russie représente pour eux, et on le comprend tout à fait légitimement d'un point de vue géographique et géographique. géopolitique continue à représenter pour eux la menace numéro un.
Mais les sanctions de l'Union européenne, les sanctions économiques ont été prolongées de 6 mois.
Voilà, et ça, c'est justement, je dirais sans doute, le meilleur contre-argument à ceux qui voudraient dire que l'Union européenne est profondément divisée sur la question, parce que malgré justement les divisions que je viens de décrire sur les sanctions, il y a quand même eu une continuité et qui est tout à fait louable, puisque on a effectivement ces sensibilités très différentes par rapport à la Russie. Les États-Unis n'ont pas joué un rôle négligeable aussi à garder une certaine cohérence au sein de l'Union européenne. On se rappelle que le président Barack Obama, au tout début justement de décider des sanctions contre Poutine, a joué un rôle décisif, a poussé l'Union européenne à rester unie sur cette question-là. Donc voilà, donc une unité malgré des divisions. Et ce que l'on pourrait dire, c'est qu'un des enjeux aussi de ce sommet de Varsovie, c'est essayer de montrer, comme l'a dit Bruno Tertrais, que l'Europe reste unie sur tous les enjeux de sécurité, de défense auxquels il doit faire face. Et en même temps, ces différences de perception des menaces, des priorités stratégiques, en fait, continueront à persister, bien au-delà du sommet de l'OTAN. On ne peut pas demander à la France de s'investir autant sur le front Est que dans le front Sud, et on ne peut pas demander aux États baltes la même implication que la France ou l'Italie dans le front Sud. Donc il y a véritablement ces divisions qui vont persister, mais ce n'est pas un problème si on arrive à fixer une vision de long terme sur ce que l'OTAN doit faire, ne peut pas faire, et notamment sur le flanc Sud, qui est beaucoup plus complexe, je dirais, que la menace posée par la Russie à l'Est.
Thomas Gomard, la multiplication de ces fronts, enfin il n'y en a jamais que 4, mais ils sont chacun assez lourds. Tout au long de sa longue histoire maintenant, l'Alliance Atlantique n'a jamais véritablement dévolu de répartition des rôles à ses membres. Tous les membres sont censés se préoccuper de l'ensemble des enjeux. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, où les conflits sont de nature hybride, et on l'a vu, alors dans la réalité du terrain, les Britbots, les morts et les blessés, à l'est de l'Ukraine, et évidemment au moment de l'annexion de la Crimée?
La résurgence de la menace russe ramène l'OTAN à ses fondamentaux, c'est-à-dire la défense collective, alors même que l'OTAN était parti sur une logique expéditionnaire depuis la chute de l'URSS. Donc ça, c'est effectivement un changement important, c'est-à-dire qu'on se repose des questions en termes de défense territoriale sur un continuum défense-dissuasion, avec le terme dissuasion, une connotation nucléaire en français qui n'a pas forcément dans le registre otanien. Mais du coup, il y a effectivement...
Cela dit, il y a aussi une dimension nucléaire à l'Alliance.
Il y a une dimension nucléaire qui est extrêmement importante et qui est un sujet peut-être sur lequel les pays membres de l'OTAN ont peine à s'entendre. Il y a une position allemande qui est assez spécifique. Mais c'est vrai qu'on a un retour à la défense collective. Alors maintenant, si on raisonne en termes de front, je pense qu'il y a eu une évolution récente et qui est donc importante à souligner à la veille du sommet de Varsovie, c'est l'évolution de la relation entre la Russie et la Turquie. Parce qu'on a eu une relation qui s'est très sévèrement dégradée fin 2015 à la suite d'un incident aérien, avec des leaderships turcs et russes qui reposent sur deux hommes forts, des relations civilo-militaires très profondément ancrées dans les systèmes politiques. Et là, récemment, on a une sorte d'amélioration doit être aussi mise en relation avec l'amélioration des relations entre la Turquie et Israël.
Alors, et donc, déjà, l'amélioration avec la Turquie. On se souvient qu'un appareil militaire russe a été abattu au mois de novembre 2015, dernier. Donc, les relations entre messieurs Poutine et Erdogan, qui avaient pourtant une forte admiration l'un pour l'autre, ont été épouvantables. Et là, Erdogan a envoyé une lettre à Vladimir Poutine il y a quelques jours.
Voilà, je pense que c'est un élément très important parce que, à mon sens, si vous voulez, les risques de tension, voire d'accrochage entre l'OTAN et la Russie se situent principalement dans la mer Baltique, mais surtout dans la relation en mer Noire avec la relation entre la Turquie et la Russie. Donc le fait d'avoir cette amélioration à la veille du sommet de Varsovie, à mon avis, doit être lu de manière positive.
Et avec Israël ?
Alors avec Israël, ça c'est tout à fait important parce qu'on a une relation en fait de plus en plus substantielle entre la Russie et Israël, et également une amélioration qui est à noter entre la Turquie et Israël, où les relations s'étaient quand même sévèrement compliquées à l'issue de l'incident sur enfin, sur lesquels
qui avait été arraisonné au large de Gaza.
Je cherchais le terme par l'armée israélienne. Donc ça, si vous voulez, sont à mon sens des évolutions positives. Il y a un autre front que vous n'avez pas forcément mentionné, mais sur lequel à mon avis il faut être extrêmement vigilant parce qu'il y a une volonté russe d'être très présent et des formes d'action là aussi visibles. C'est l'Arctique. Qui concerne aussi l'OTAN, qui concerne en particulier évidemment les États-Unis, le Canada et un pays comme la Norvège. Ça nous semble peut-être loin, mais c'est aux yeux de la Russie un front à part entière, à la fois en termes défensifs, mais également en termes de nouvelles frontières, puisque c'est vu comme un enjeu pour les routes maritimes et puis aussi une zone à terme d'exploration. Pétrolière et gazière.
Donc ça nous ramène au front nord, où les pays baltes, évidemment, qui ont une longue et douloureuse mémoire de l'occupation soviétique, ont signifié aux autres membres de l'OTAN à quel point ils sont inquiets de ce qui se passe dans l'enclave de Kaliningrad et de ce qui se passe aussi en mer Baltique. J'ai demandé à Fyodor Lukianov si la Baltique était véritablement devenue, du point de vue russe, une zone à risque.
S'agissant de la Baltique, malheureusement, il y a un comportement assez risqué, surtout du côté russe, parce que lorsque les experts, non pas les médias et les observateurs, mais lorsque les experts commencent à dire qu'il y a des avions qui ont fait des vols en éteignant leurs transpondeurs, on s'aperçoit qu'il s'agit d'avions russes, mais aussi d'avions de l'OTAN. Donc, vous voyez, c'est de part et d'autre. Donc, moi, je crois que c'est assez risqué. La Russie essaye d'inviter l'OTAN à des conversations sérieuses, non pas sur des questions politiques, mais sur des questions de sécurité pour la région, pour essayer de réduire les risques. Ce système a pas mal prévalu pendant la guerre froide. Malgré la confrontation, les militaires soviétiques et américains avaient mis au point un système bien construit d'information mutuelle avec un certain degré de transparence et ils étaient d'accord pour ne pas franchir la ligne rouge. Il y avait des accords spéciaux et puis des accords techniques. Ça, c'était détruit ou oublié après la guerre froide parce que tout le monde croyait que ce n'était plus nécessaire. Et bien entendu, après la chute de l'Union soviétique, jusqu'à récemment, l'OTAN fonctionnait dans la région comme si elle était seule. Aujourd'hui, la Russie se montre assez maladroite et a un comportement risqué, mais elle agit ainsi pour se rappeler au bon souvenir de l'OTAN, en quelque sorte. Et il est nécessaire de négocier un nouveau modus vivendi entre les deux puissances militaires. Jusqu'à présent, l'OTAN s'est montrée assez réticente à cela, parce que politiquement, on peut penser que si l'OTAN se lance dans de telles négociations, ça ne fera que donner de la légitimité à la présence russe. Mais moi, je pense que c'est inéluctable, parce que c'est une question de sécurité quand même. Parce que s'il se produit quelque chose dans la région, eh bien, ce sera un accident, un hasard, si vous voulez. Et on sait que le hasard peut avoir des conséquences très graves.
Bruno Tertrais, des conséquences très graves et dans ses propos comme une espèce de nostalgie, un soupçon de nostalgie de l'époque de la guerre froide où en fait tout était... codifié.
Oui, codifié, mais attention, pas toujours simple et souvent dangereux. Il ne faut pas mythifier la guerre froide en pensant que toutes les règles étaient parfaitement claires, qu'il n'y avait pas de risque. Bon, c'était quand même un peu plus compliqué que cela. Là où la comparaison avec la guerre froide est intéressante, c'est qu'il me semble que Moscou est beaucoup plus à l'aise dans un pur rapport de force brute et dans une stratégie de la tension que ne l'est l'Alliance Atlantique. Et d'ailleurs, c'est pas seulement du côté européen. D'ailleurs, les Américains non plus, même si certains d'entre eux effectivement, sont déjà dans un retour à la guerre froide, mais globalement, l'administration de Barack Obama n'est pas du tout à l'aise avec cette idée d'un retour à quelque chose qui ressemblerait à la guerre froide. Ce qui pose problème, à mon sens, dans l'attitude russe, c'est que, et là je prolonge ce que disait M. Lukianov à l'instant, c'est que, évidemment, il peut y avoir des accidents, mais soyons clairs, la responsabilité est à 90% celle de Moscou. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce que disait votre invité par téléphone, les avions de l'OTAN volent parfaitement avec ce qu'on appelle appelle transpondeurs, c'est-à-dire pour s'identifier, pour savoir qui ils sont, premièrement. Deuxièmement, ils ne violent pas la souveraineté, les espaces aériens et maritimes reconnus des pays membres, des pays riverains de la Baltique, par exemple. Troisièmement, ils ne font pas ce que font parfois malheureusement les avions russes, c'est-à-dire s'approcher très près, littéralement de frôler un bateau. Non, les Russes sont dans un comportement de provocation. Effectivement, il s'agit de faire peur pour changer les règles du jeu par la force, à mon sens. Et ça, c'est assez dangereux. Parce que je crois d'abord que ça ne marchera pas. Les pays de l'OTAN ne vont pas changer les règles du jeu. Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que Moscou a déjà changé les règles du jeu, puisqu'elle a mis à bas tout un système qui date déjà de la guerre froide. 1975, on s'est accordé avec l'Union soviétique pour dire, voilà, on ne viole pas les frontières, on ne change pas les frontières par la force. 1990-91, on s'est entendu avec la Russie pour dire, voilà, les règles communes de sécurité en Europe. Et là, ça tenait compte, à mon sens, des intérêts russes. Donc, c'est tout un ensemble de règles
mais
qui datent déjà de la guerre froide,
pas perçu
déjà
comme ça par Vladimir Poutine, dont, au contraire, le grand œuvre consiste à restaurer la Russie, non seulement dans sa grandeur, mais aussi dans son espace d'influence.
Cette notion d'espace d'influence, à mon avis, c'est une notion du 19e siècle, et d'ailleurs, la Russie a une conception très 19e siècle. Je ne vois pas pourquoi la Russie aurait de droit un espace d'influence autour de ses frontières, parce que, je vous rappelle quand même que géographiquement, à ce moment-là, c'est un espace d'influence aussi, pourquoi pas, pour les pays européens eux-mêmes, et pour les pays de l'OTAN eux-mêmes. Non, je crois que ce à quoi Moscou ne souscrit pas aujourd'hui, c'est à cette idée selon laquelle les pays qui se situent entre l'OTAN et la Russie doivent pouvoir choisir librement leur destin, s'allier avec Moscou, s'allier avec la Washington, faire partie de l'Europe, faire partie d'une communauté dominée par la Russie. C'est leur choix. Mais ça n'est pas le mode de fonctionnement actuel du pouvoir russe, me semble-t-il.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alexandra Dehaube-Scheffer, je rappelle que vous dirigez le bureau de Paris du German Marshall Fund. Vous êtes spécialiste des problèmes transatlantiques. Il y a toujours des troupes qui portent l'écusson de l'OTAN et qui sont déployées sur le terrain. Et d'abord en Afghanistan, bien sûr.
Effectivement, je pense que le sommet de Varsovie va beaucoup se focaliser sur la Russie et le front Est. Hein, mais il faut rappeler aussi qu'en Afghanistan, on a encore 13 000 soldats qui, effectivement, sont encore dans cette mission de formation et d'accompagnement des forces de sécurité afghanes. Il ne faut pas aussi oublier le Kosovo. On a presque environ 5 000 troupes otaniennes également. Donc tout ça,
c'est ce qui reste des guerres des Balkans qui ont évidemment beaucoup occupé l'OTAN dans les années 90.
Absolument. Et en plus de ça, vous avez récemment cette mission dans la mer Égée également, qui aide la mission européenne Frontex à gérer justement le problème des passeurs de migrants sur les côtes turques.
Et donc ça consiste en quoi? Parce que c'est assez peu couvert par les médias français. Donc c'est quoi? Sur des porte-avions américains qui surveillent les côtes libyennes?
Ce sont des navires de guerre, donc qui contrôlent. C'est une mission en fait de surveillance et d'interception également de ces trafiquants, de ces passeurs de migrants. Et il y a aussi l'idée récemment évoquée par le secrétaire général de l'OTAN d'étendre cette mission aussi aux côtes libyennes et également en partenariat avec l'Union européenne. Donc il y a beaucoup de travail aussi à faire, je dirais, en matière de coopération entre l'OTAN et l'Union européenne sur toutes ces questions-là et notamment le volet sud. Mais pour revenir aussi à cette question des États baltes, il y a effectivement la dimension purement conventionnelle, je dirais, de la guerre. Et en Europe, vous avez toujours d'ailleurs la présence aujourd'hui de 29 000 militaires américains. Le Pentagone a aussi annoncé d'ici la fin 2007 le déploiement d'une brigade blindée, donc environ 5 000 hommes dans l'Europe de l'Est et les États baltes, précisément pour justement confronter une potentielle menace d'ordre conventionnel. Mais à mon avis, s'il y a une menace russe dans ces États baltes, ça sera sans doute de manière plus subtile. Et c'est là où on est déstabilisé, nous, du côté de l'OTAN, et pas confortable. Vous avez en Lettonie 30% de minorités russes, biélorusses. En Estonie, je crois qu'on est autour des 25%. Et c'est peut-être aussi par ce biais-là, finalement, que les États baltes sont très, très vulnérables. Et c'est quelque chose contre, je dirais, laquelle nous, on est un petit peu démunis. Parce que c'est vrai qu'on peut mettre des brigades blindées, des militaires faire des exercices de surveillance
aérienne. Ce qui a été fait à la demande
absolument.
De ces États et de la Pologne.
Absolument, absolument. Et ça, on a vraiment vu un renforcement de tous, je dirais, ces instruments purement militaires depuis le sommet du Pays de Galles de 2014, et notamment, je dirais, la présence américaine qui est prépondérante hein, dans ce type d'exercice et qui surpasse largement la contribution de l'ensemble des autres pays de l'OTAN. Hein.
Ça fait oui, vraiment et qui est perçu par les populations de ces pays-là comme étant la seule vraie garantie.
Absolument, et c'est véritablement le cas, et c'est ce que recherche d'ailleurs Poutine, finalement. Donc je dirais, peut-être que c'est l'aspect, en fait, vous l'avez mentionné dans vos propos introductifs, hybride hein, de cette menace russe aussi qui nous déstabilise beaucoup, puisqu'il y a cette présence de minorités russes, également biélorusses. Il y a également d'autres moyens par les outils cybernétiques. On va voir aussi un certain nombre d'annonces au niveau de l'OTAN et aussi en partenariat avec l'UE face à ces menaces d'ordre cyber.
Oui, alors arrêtons-nous sur cette dimension-là un moment, parce que c'est devenu évidemment majeur. Oui. On a vu des attaques non seulement de la part des Chinois, mais de la part des Russes, entre guillemets, notamment contre l'Estonie. On sait aussi à quel point le hacking en franglish est devenu une dimension de la guerre contemporaine. Est-ce que c'est à l'ordre du jour du sommet de la semaine prochaine à Varsovie ?
Alors, il y aura une discussion, je dirais, sur deux sujets intéressants. L'aspect maritime, qui devient fondamental, puisque Thomas Goma mentionnait la mer Noire, on a la mer Égée et on a également la mer Baltique. Donc, tout ça fait que la dimension maritime est très présente et la dimension cyber également. Mais la dimension cyber est extrêmement compliquée, puisque une fois intégrée à l'article 5, donc cet article de défense collective, comment fait-on...
Alors, il faut rappeler ce qu'est l'article 5, alors, qui est évidemment l'article central du traité de Washington.
Absolument, que si un État membre de l'OTAN se fait attaquer, que tous les autres États membres de l'OTAN ont la responsabilité de venir à son secours et de réagir. Et en cas d'attaque cyber, la question c'est véritablement comment identifier d'abord d'où elle vient, comment le vérifier. Et ensuite, c'est quel type de réponse ? Est-ce qu'on va réagir aussi par le biais d'une attaque cybernétique ? Comment va-t-on répondre à ce type de menace ? Et là, je ne suis pas vraiment sûre que les 28 États membres le savent précisément, en fait. Et c'est ça qui nous perturbe, c'est ce nouveau type de menace hybride qu'on n'arrive pas encore véritablement à maîtriser.
Thomas Gomard, il y a un autre type de menace hybride et qui ensanglante le Moyen-Orient et les pays européens maintenant. Il s'agit évidemment de Daesh. Et donc, on a vu que, là aussi, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, qui est un Norvégien, Stoltenberg, a beaucoup évoqué cette dimension-là. Jusqu'où est-ce que l'Alliance Atlantique doit s'impliquer dans la lutte contre Daesh ?
Ça, c'est une question... C'est la question centrale, en réalité. C'est-à-dire que le combat contre Daesh se fait dans le cadre d'une coalition dans laquelle participent 65 États. En réalité, l'essentiel des frappes et des actions est conduite par un petit nombre de pays, dont des pays, évidemment les États-Unis en premier lieu, et un certain nombre de pays de l'OTAN, mais également des pays du Golfe. Et ça renvoie effectivement l'OTAN à ses missions. C'est-à-dire, est-ce que c'est, dans quelle mesure c'est vraiment le rôle de l'OTAN d'y participer ? Si on se passe du point de vue russe, si vous voulez, il y a très clairement quelque chose qui outrepasse. L'OTAN outrepasse sa mission en intervenant dans ce cadre-là. Du point de vue russe aussi, si on essaie de se représenter les choses et de se mettre à leur place, ce qui se passe en Syrie, au fond, ils ont l'impression que c'est eux qui ont transformé le rapport de force sur le terrain en sauvant le régime de Bachar el-Assad et avec une action conjointe avec les Iraniens en empêchant au fond Damas de tomber. C'est leur perception, si vous voulez. Alors ça renvoie à quelque chose là aussi qui passe qui souligne l'importance des relations avec la Turquie. Ce qui s'est passé, si vous voulez, depuis 2014, c'est que la préparation des JO de Sochi a donné lieu en Russie à une intensification des opérations contre-terroristes au Caucase du Nord, avec un certain nombre d'effets, et au fait que beaucoup de djihadistes ont quitté le Caucase du Nord pour rejoindre la Syrie et l'Irak en transitant par la Turquie. Certains d'entre eux d'ailleurs s'installant en Turquie, donnant lieu à un certain nombre aussi d'opérations clandestines russes sur le territoire turc, ce qui a contribué à détériorer la situation. Donc si vous voulez, en fait, si on se place du point de vue russe, il y a un risque de convergence des fronts. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que à la fois la menace exercée par l'OTAN sur le front ouest traditionnel, qui s'est exprimé en Ukraine, la menace venant du sud qui pour...
Ouest pour eux, russe.
Voilà, mais... je me place là du point de vue russe. Hein. La menace venant du sud, c'était en gros de l'Arabie Saoudite, ce que les Russes résument par le terme wahhabisme. Ils ont l'impression que ça peut converger au Caucase du Nord. Et c'est un enjeu de sécurité absolument, absolument majeur. Donc au fond, la grande difficulté que nous avons, c'est qu'il y a l'impression qu'on peut combattre le même ennemi, l'État islamique. Sur le terrain, les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. Mais du point de vue russe, il y a le sentiment d'avoir affaire à une poussée occidentale, avec l'OTAN depuis à la faveur, si vous voulez, des élargissements, et le sommet de Varsovie va être interprété dans ce sens, mais également de devoir se prémunir contre ce qui vient des pays du Golfe, en particulier d'Arabie Saoudite.
Alors, il est intéressant de noter que parmi les premières arrestations, donc, ont effectué les autorités turques après le terrible attentat à l'aéroport d'Istanbul, qui a fait, je le rappelle, au moins 43 morts et plus de 230 blessés. Les trois premiers terroristes présumés identifiés sont un Russe, un Tchétchène et un Kirghize. Et j'ai demandé à Fiodor Loukhanov, je précise que cet entretien a été enregistré avant cet attentat, c'était le matin même en fait, j'ai demandé à Fiodor ce que représentait aujourd'hui, toujours du point de vue de Moscou, la carte russe.
La question russe-turque est très volatile. Il y a encore quelques jours, il y avait cette confrontation et tout à coup, tout a changé du tout au tout lorsque M. Erdogan a envoyé une lettre que moi j'ai trouvée totalement incroyable, et cette lettre correspond à tout ce que les Russes voulaient entendre au-delà de leurs espérances. Une lettre d'amour. Une lettre d'amour et d'excuses, disons. La relation avec la Turquie est très importante et je suis ravi que l'animosité ait baissé, voire cessé. S'agissant de l'OTAN, je crois que la situation est particulièrement complexe, non pas à cause de la Russie, mais parce que le rôle de la Turquie dans l'OTAN est assez trouble. C'est assez difficile à suivre tout ça. Parfois, la Turquie veut suivre l'OTAN. Parfois, la Turquie préfère agir indépendamment. Et toute la crise avec la Russie montre la différence par rapport à la guerre froide. À l'époque de la guerre froide, il était inenvisageable qu'un avion turc abatte un avion soviétique sans au moins consulter le patron, c'est-à-dire les États-Unis. Deuxièmement, Erdogan l'a fait, et puis, après l'avoir fait, il est allé voir l'OTAN pour se faire protéger. Et c'est pas comme ça qu'on fait. Soit on suit les règles, ou alors on se fait protéger. Enfin, je sais pas. Si on suit les règles, on peut demander la protection. Si on suit pas les règles, eh bien, il faut assumer. Donc, je pense que la Turquie est très importante aussi bien pour l'OTAN que pour les Russes. Et la Turquie est un pays assez imprévisible, parce que Erdogan essaye d'établir la Turquie comme étant indépendante, une espèce de centre de gravité indépendant, non seulement dans cette région, mais aussi au-delà, les Balkans, le Caucase et l'Eurasie aussi. Alors qu'il reste dans l'OTAN, bien entendu, et aujourd'hui, avec ce nouveau rapprochement, je ne sais pas trop quoi dire. Il y a 2-3 ans, Erdogan a officiellement demandé à Poutine comment la Turquie pourrait rejoindre l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est assez intéressant. Vous voyez, c'est une diversification particulièrement audacieuse. Donc la Turquie, c'est un élément très particulier, très important dans les relations avec la Russie, mais la Turquie est un pays qui a sa propre dynamique.
Bruno Tertrais, il y a une dimension qu'on n'a pas encore évoquée dans cette discussion et qui est une dimension nucléaire avec la défense antimissile qui avait été conçue au niveau de l'Alliance Atlantique, en fait, par rapport à l'Iran. Donc, un an après l'accord avec l'Iran sur l'endiguement, en quelque sorte, de ses ambitions nucléaires, que devient cette... ce pilier-là.
Je vais, d'ailleurs c'est lié, dire un tout petit mot supplémentaire sur la Turquie, parce que la Turquie a un rôle particulier justement dans ce dispositif antimissile, puisqu'il y a un radar pour repérer les départs de missiles qui est installé en Turquie, et donc ça fait partie des raisons pour lesquelles la Turquie est importante. Monsieur Loukianov a parfaitement de dire que la volatilité de ces relations russo-turques est extrême, et que l'OTAN doit prendre garde à ce que son membre turc ne fasse pas trop de bêtises, et ça, c'est un des problèmes de l'Alliance, c'est un des problèmes internes. Alors, cette histoire de défense antimissile, alors effectivement, on va déclarer ce système maintenant véritablement opérationnel, alors même qu'il n'y a plus, en tout cas pour l'instant, de risque d'attaque ou de menace plutôt nucléaire iranienne pour les années qui viennent. Donc on se retrouve avec un système qui a été conçu pour les missiles iraniens, alors qu'aujourd'hui ce sont simplement des missiles classiques, conventionnels. Donc je crois qu'on peut s'interroger sur cette dépense, parce qu'en termes de coût-efficacité, est-ce qu'on a vraiment besoin de cela? En tout cas, moi, je pense que ça pose question, véritablement.
Ils sont disposés géographiquement?
Alors, ils sont disposés à la fois en mer et sur le territoire de certains des pays de l'Alliance, notamment au sud-ouest. Au sud-est, la Bulgarie, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire, la Russie a toujours fait une question de principe, de s'opposer à la défense antimissile de l'OTAN, en prétendant que ça pouvait être dirigé contre les missiles russes. Bon, ça, c'est n'importe quoi, parce qu'on peut démontrer que techniquement, la défense antimissile de l'OTAN ne peut pas atteindre un missile à longue portée russe. Mais je crois que ce qui pose problème à Moscou, c'est le fait que cette défense antimissile, elle ancre encore un peu plus les pays, les nouveaux membres de l'Alliance, les pays d'Europe centrale et orientale, dans un dispositif occidental. Je crois que la première opposition de la Russie au dispositif, au bouclier antimissile, elle est politique avant d'être militaire. Mais le problème, c'est qu'à force de dire ça, il y a peut-être un moment où on va se dire si la Russie devient vraiment menaçante, alors peut-être faudra-t-il réorienter ce système antimissile vers les missiles à courte et moyenne portée russe, même si ce sont des missiles classiques ou conventionnels. Et d'une certaine manière, Moscou aura peut-être créé une sorte de prophétie autoréalisatrice qui fait qu'à force de se plaindre de cette défense antimissile et de tenter de tester les résistances de l'Alliance, on va peut-être finir par diriger ce bouclier contre elle, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Une question en ce qui concerne l'attitude de la France par rapport à toutes ces problématiques. Vous venez de publier un livre qui s'intitule « Le président et la bombe ». Il y a eu dans le discours politique français depuis un demi-siècle au moins sinon une tension ou un malaise ou un embarras vis-à-vis de l'Alliance Atlantique. Qu'en est-il aujourd'hui?
Sur l'Alliance ou sur la défense antimissile, vous voulez dire?
Oui, en partant de la défense antimissile, puisque la France est l'un des trois pays nucléaires de l'Alliance.
La France, l'une des trois puissances nucléaires de l'Alliance, a longtemps été mal à l'aise avec ces histoires de défense antimissile, craignant que ça finisse par soit poser des problèmes à cause de l'action et de la réaction des uns et des autres, du développement de ces boucliers antimissiles qui auraient pu poser des problèmes à sa propre force de dissuasion. On n'en est plus là. Là, on parle plus de boucliers à la Reagan. C'est des systèmes extrêmement limités. Donc la France accepte tout à fait l'idée que en gros, l'antimissile, c'est une sorte de complément au système de dissuasion nucléaire, mais pas un substitut. Là où la France a eu un problème qui est réglé, à ma connaissance aujourd'hui, c'est que le système de l'OTAN est un système dans lequel il faut pouvoir réagir très vite. Donc, à qui est-ce qu'on va donner l'autorité de tirer, d'intercepter un missile? On ne va pas réunir le Conseil de l'Atlantique Nord, qui va prendre des heures, c'est une question de minutes. Et là, la France, jusqu'à ces derniers jours, a hésité à accepter que ce système soit déclaré opérationnel à cause justement de ce problème. Des, des règles d'engagement. Donc là encore, comme souvent depuis 1966-67, une voix singulière de la France, même si la France est aujourd'hui revenue au statut dans lequel elle était avant 1967, la France, on va dire, est à la fois un très bon allié parce qu'elle dit, moi je suis, l'article 5 pour moi c'est sacré, la défense collective un pour tous, pour tout, et en même temps elle tient toujours à maintenir sa spécificité, elle n'hésite pas à tenir tête aux États-Unis, et d'ailleurs je crois, pour boucler la boucle, qu'on peut dire que c'est le fait qu'elle est une force de dissuasion nucléaire indépendante de l'Amérique qui lui permet, à mon sens, justement, de porter cette voix.
Éric Scholl, vous dirigez Courrier International et vous avez remarqué la coïncidence passée très largement sous silence à cause du fracas britannique, la coïncidence entre la publication d'un rapport tout à fait intéressant du service d'action extérieure de l'Union européenne, donc quelques jours avant ce sommet de l'OTAN, et un papier qui demande à ce qu'étaient encore les 28 pays membres de l'Union, donc maintenant les 27, de renforcer leur coopération en matière de défense et d'augmenter leurs dépenses militaires.
Oui, donc c'est Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, c'est son titre, qui donc avait remis au 28, donc c'est vrai, juste quelques jours avant le sommet européen de cette semaine, un document intitulé « Stratégie globale ». Alors c'est vrai, le tremblement de terre provoqué par le vote britannique a fait passer au second plan cette réflexion sur la défense. Et pourtant, cette contribution, qui arrive donc juste quelques jours avant le sommet de Varsovie, mérite d'être regardée de près. Comme l'explique le site en ligne bruxellois Politico, cela fait plus d'un an que Federica Mogherini et ses services planchent sur la redéfinition, sur cette redéfinition du rôle de l'Union européenne dans les domaines de la politique étrangère et de la sécurité. Et selon Craig Winnaker du site Politico, ce travail prend évidemment une signification particulière dans le contexte de la décision britannique de quitter l'Union européenne. Dans ce document, Federica Mogherini explique que si l'Union européenne veut devenir plus autonome, eh bien elle devra s'appuyer sur deux facteurs clés, l'argent, mais aussi une industrie de défense solide. Je cite, « L'investissement dans la sécurité et la défense est une question urgente », nous dit le document. Et pourquoi ? Parce que les pays européens doivent rester évidemment souverains dans les décisions en matière de défense, mais la coopération doit devenir la norme pour acquérir et maintenir les moyens de défense. Le texte, poursuit Politico, ne plaide pas en faveur de la mise en place d'une armée européenne, comme le craignaient les eurosceptiques, mais il réclame plus de capacités pour pouvoir déployer rapidement des troupes européennes sur le terrain. Enfin, concernant la Russie, alors là, le document manie la carotte et le bâton, estime Politico. D'un côté, il dénonce l'annexion illégale de la Crimée et la déstabilisation en Ukraine par la Russie. Mais de l'autre, il plaide en faveur d'une coopération sélective avec la Russie sur certains thèmes, comme par exemple la sécurité maritime, la recherche ou le climat. Sans nier en tout cas les interrogations que pose le vote sur le Brexit, eh bien Federica Mogherini résume cette stratégie en expliquant que l'Europe doit être prête à aller plus loin que l'OTAN.
Plus loin que l'OTAN. Alors, c'est pas tout à fait le même point de vue qui est exprimé par la revue américaine Foreign Policy.
Oui, dans un article consacré justement aux conséquences du Brexit, eh bien, Foreign Policy nous explique que les pertes de l'Europe vont profiter à l'OTAN, selon son auteur James Stavridis, l'auteur de cet article. Donc, aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, le Brexit va renforcer l'OTAN. Tout d'abord, explique-t-il, l'objectif du Kremlin a toujours été de devenir l'entité politique la plus solide du continent, et il est probable que Moscou cherche à exploiter au maximum les forces centrifuges déclenchées après le référendum sur le Brexit dans les démocraties d'Europe occidentale. Et pour l'auteur, eh bien l'OTAN a la capacité de contrebalancer ces efforts russes. Autre argument avancé par Foreign Policy, avec le retrait de l'Union européenne, la Grande-Bretagne va disposer de plus de ressources, mais aussi pour soutenir l'OTAN, c'est-à-dire à la fois plus d'argent et plus d'hommes, mais aussi, explique l'auteur, une plus grande motivation de la part des Britanniques pour entretenir cette relation spéciale privilégiée avec les États-Unis.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Bruno Tertrais, manifestement, vous trouvez que les propos de M. Stavridis sont absurdes.
L'amiral James Stavridis, qui est certainement un excellent responsable amiral. Militaire, n'a aucun sens politique, visiblement, c'est-à-dire inquiétant pour quelqu'un qui était en charge des forces armées de l'Alliance, parce que dire que la Grande-Bretagne va avoir davantage d'argent à donner à l'OTAN, d'abord, c'est totalement absurde quand on voit aujourd'hui le cours de la livre, les marchés et les perspectives de croissance britannique après un Brexit, et ensuite, c'est de fonctionner comme on le faisait il y a 20 ans en pensant que ce sont deux institutions concurrentes, ce sont un jeu à somme nulle entre l'OTAN et l'Union européenne, alors qu'aujourd'hui, même s'il peut y avoir des petits désaccords parfois, en gros tout le monde sait que l'OTAN c'est l'organisation de défense collective, l'UE fait tout ce que ne peut pas faire l'OTAN et notamment des actions civilo-militaires de manière beaucoup plus efficace, elle intervient dans des crises en Afrique, ce que l'OTAN ne ferait jamais, donc je crois que cette idée est une idée totalement dépassée et que malheureusement, le Brexit éventuel, déjà la crise actuelle, affaiblit à la fois l'Union européenne et l'OTAN.
Et donc, Alexandra de Hoopscheffer, l'un des objectifs du sommet de vendredi et de samedi sera d'arrimer les îles britanniques, on n'ose plus parler de Royaume-Uni, mais les îles britanniques à l'Alliance Atlantique, puisqu'encore une fois, il faut quand même rappeler que la Grande-Bretagne, non seulement c'est l'une des trois puissances nucléaires, mais je crois que son budget militaire représente la moitié du budget hors États-Unis, bien sûr, des autres membres de l'Alliance.
Oui, c'est un très, très gros contributeur aux dépenses militaires de l'OTAN. Moi, je dirais en fait que peut-être le seul point assez ironiquement positif du Brexit, et je partage tout à fait ce que vient de dire Bruno Tertrais, c'est que, en fin de compte, ça a un petit peu libéré la parole au sein de l'Union européenne pour parler des questions de défense et de sécurité. Moi, je suis très frappée dans ce document de voir que la formulation autonomie stratégique, c'est celle que l'on voit dans pratiquement chaque paragraphe, qui est un terme pas du tout britannique, bien au contraire, c'est un terme que les Britanniques détestent, puisque c'est une autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire qui pourrait se débrouiller en gros sans l'appui notamment des États-Unis. L'autre terme que je retiens, c'est celui de résilience, qui est très à la mode aujourd'hui. Résilience.
C'était un de ces mots valises. Voilà, méfions-nous.
Voilà, à la fois.
En l'occurrence, ça veut dire quoi ?
En gros, ça veut dire comment encaisser les crises à la fois internes et les crises externes. Ça peut être la crise des migrants, ça peut être une attaque de la Russie. Donc c'est comment faire en sorte que les sociétés et que les gouvernements soient davantage capables de répondre et plus rapidement aux crises qui touchent à la fois leur société et également leurs frontières externes. En gros, c'est à peu près ça. Mais si on fait le bilan, et c'est sans doute une des grandes questions qui va se poser au sommet de l'OTAN à Varsovie, de quelle manière est-ce que l'Europe prend ou pas un peu plus ses responsabilités stratégiques, notamment dans ses voisinages?
Il faudra déjà qu'un certain nombre de pays membres de l'Union européenne augmentent leur budget militaire. L'OTAN demande que ce soit à 2% du PIB, et la moyenne, je crois, c'est 1,4.
Oui, et alors effectivement, mais d'un point... Si on porte un regard un peu plus positif, on voit, et les chiffres officiels de l'OTAN sont sortis récemment, que sur les 28 membres de l'OTAN, 23 membres de l'OTAN aujourd'hui ont en tout cas arrêté la réduction de leur budget de défense. Donc on peut dire c'est modeste, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Trois quarts sont en train de légèrement augmenter leur budget de défense, mais en même temps, je dirais cette obsession du chiffre et du 2% pour moi est un petit peu absurde. Il faut aussi regarder la manière dont certains pays, y compris des petits pays, contribuent aussi à la gestion des crises. Je prends le cas d'un petit pays qui est l'Estonie, par exemple, qui, bien entendu, est très impliquée sur le front Est et d'ailleurs commence à atteindre un point de saturation. Mais en même temps, l'Estonie est un pays qui aide la France au Mali. Donc, il faut voir aussi un petit peu comment ces pays contribuent concrètement. Et puis, le 2%, je prends toujours l'exemple de la Grèce, qui est effectivement... remplit ce critère-là, mais que fait la Grèce en matière de projection de forces militaires et de gestion de crise? Donc ce critère-là,
les malheureux, ils sont quand même
voilà. Mais ce critère-là, pour moi, est pas vraiment
au premier rang s'agissant de la crise des réfugiés
fondée. Voilà. Mais je dirais, moi, ce que je retiendrais pour l'Union européenne, c'est la proposition franco-allemande qui me paraissait vraiment intéressante, co-signée par les ministres des Affaires étrangères français et allemands, et notamment l'idée. Et moi, je pense que c'est c'est très bon parce que ça doit, ça peut pas venir des 28 pays, mais il doit y avoir aussi, ça doit venir du top down, du haut, de consacrer une fois par an une réunion du Conseil européen aux questions de sécurité et de défense, et que s'il y a une autre crise de la zone euro, enfin on n'en est pas sorti, ou un Grexit ou autre chose, qu'on on reste sur l'agenda de la défense et de la sécurité, parce que on a vu ces deux dernières, c'est depuis la crise de l'euro, que trop souvent on a évacué les questions de sécurité et de défense.
On en vient encore de le faire.
Bien sûr, enfin, là, voilà. Voilà. Et je pense que cette proposition-là, franco-allemande pour moi, est sans doute la meilleure à retenir. C'est la seule manière d'obliger les Européens ensemble à réfléchir ensemble aux enjeux de sécurité et de défense.
Bruno Tertre.
La seule bonne nouvelle en cas de Brexit effectif, c'est que l'Union Européenne pourra mettre sur pied ce fameux quartier général opérationnel qu'elle n'a pas pu mettre en place jusqu'à présent pour l'aider à conduire ses propres opérations militaires en raison d'une opposition britannique depuis 20 ans.
Mais pourquoi est-ce que apparemment le Quai d'Orsay n'a pas publié sur son site ce fameux projet franco-allemand, ce discours Alexandra,
moi je trouve ça regrettable parce qu'il y a eu.
Enfin, il faut dire là encore que tout le monde a été noyé dans les bouillonnements de la Manche.
Il y a eu trois grands axes intéressants avec des propositions, je dois dire, assez concrètes sur la sécurité et la défense, dont celle que je viens d'évoquer, avec aussi cette obligation de réévaluer régulièrement l'environnement sécuritaire qui nous entoure, de définir, voire de redéfinir régulièrement nos priorités stratégiques. L'autre, c'était sur les questions migratoires, qui sont difficiles à gérer. Et puis enfin, c'était sur plutôt les enjeux d'emploi et de croissance. Donc pour moi, effectivement, maintenant que le Royaume-Uni est en pleine crise identitaire au sein de l'Union européenne, que Bruxelles ne peut pas jouer ce rôle moteur en raison de tout cet euroscepticisme qui touche l'ensemble des pays de l'Europe, le franco-allemand devrait véritablement jouer ce rôle-là.
Devrait. J'ai d'ailleurs dit une bêtise tout à l'heure. En fait, le budget militaire britannique représente un quart du budget de l'Union européenne. Thomas Gomard, ce sommet à Varsovie, donc vendredi et samedi prochain, ce sera la dernière apparition de Barack Obama, le président sortant des États-Unis. On se souvient qu'il était venu à Londres. Je me souviens que nous en avions discuté ensemble ici même. Barack Obama était allé à Londres pour dire avec beaucoup d'éloquence, d'ailleurs, aux Européens, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait depuis un demi-siècle, et vous, Britanniques, surtout, restez en quelque sorte. Ça a eu plutôt un effet négatif, il faut bien le dire. Que faut-il attendre de ce dernier grand discours d'Obama, auquel on a beaucoup reproché, peut-être avec excès d'ailleurs, de se désintéresser de l'Europe?
Je pense qu'il faut attendre du discours de Barack Obama un appel à la raison aux Européens, c'est-à-dire que les Européens comprennent la situation, leur situation stratégique d'une certaine manière, et fassent les choix nécessaires. Donc moi je pense que
ce que tout président américain nous dit depuis.
Oui, absolument. Mais le fait
et
est
alors,
que
on rouspète parce qu'évidemment, et surtout en France, on déteste l'idée de dépendre de Washington, mais en même temps, dès qu'il y a un gros problème, on trouve le numéro de téléphone, comme dirait Kissinger dans l'autre sens.
Mais en fait, ce qui à mon avis est en train de se passer, c'est que la présidence Obama a correspondu à un retrait américain à la fois du Moyen-Orient et d'Europe, et à cette idée de pivot vers l'Asie. Et en réalité, elle est en train de finir en se rendant compte que l'Europe est directement menacée sous l'effet croisé de la pression migratoire, de ses problèmes internes, de la pression russe, etc. Et donc, c'est peut-être de rappeler aux Européens à quel point ils doivent prendre leur destin en main. Le deuxième élément, c'est là aussi, si on essaie de comprendre ce discours d'Obama et cette perspective du point de vue russe, il faut comprendre qu'à Moscou, aujourd'hui, il y a un sentiment, au fond, d'avoir eu raison. Parce que le Brexit est interprété comme le sens de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a cette idée sur laquelle l'Union européenne est vouée à se déliter. Et donc ça va dans le sens de l'argumentaire.
Et d'ailleurs,
russe.
On voit que le Kremlin utilise beaucoup de moyens dits de soft power, enfin à travers ses propres médias, des campagnes de désinformation, etc.
Effectivement,
et le financement de certaines formations d'extrême droite en particulier.
Alors effectivement, ça rentre dans une stratégie d'influence russe, mais l'argument russe est de dire on n'a même pas besoin de ça, c'est que les Européens se délitent d'eux-mêmes. À cela s'ajoute la pression migratoire. toujours du point de vue russe, qui est vu comme, bah, voilà, ça va, le multiculturalisme européen est en train d'échouer. Et puis la troisième idée, c'est le successeur de Barack Obama. Si c'est Trump, c'est un succès pour Moscou. C'est-à-dire que Moscou dira, voyez la démocratie, ce que ça produit. Vous nous avez donné des leçons de démocratie depuis la chute de l'URSS et vous vous retrouvez au fond aujourd'hui avec le Brexit, une crise migratoire et un président américain fantasque. Je ne sais pas si c'est le bon terme pour qualifier.
Mais pour le moment, Vladimir Trump. Poutine dit grand bien de Donald Trump. Je crois qu'ils se sont croisés dans une loge.
Oui, il y a effectivement des échanges d'amabilité entre les deux hommes. Mais en réalité, ce que ça traduit sur le plan idéologique, c'est ça va être utilisé par le Kremlin, notamment à des fins internes, parce qu'il y a la perspective présidentielle en 2018 en Russie, comme au fond, vous voyez, le système libéral, la démocratie, etc., conduit à l'impasse.
Et donc là, dans ce sens-là, ce sommet de Varsovie, encore une fois, comme le soulignait tout à l'heure Fiodor Loukianov, le simple fait qu'il se tienne à Varsovie a un poids symbolique spécifique pour le Kremlin. Mais ce sommet de Varsovie, en fait, intervenant après le Brexit, peut fournir à Vladimir Poutine des motifs de satisfaction par rapport à sa propre analyse des rapports de force.
Ça, c'est certain. C'est-à-dire que Vladimir Poutine adore les symboles, adore jouer avec les symboles. Le pacte de Varsovie a été créé en 1955, après la création de l'OTAN. Et donc, 61 ans après, il y a une sorte de match retour. Et je crois que le fantasme ultime du Kremlin, ça serait de prouver l'inanité de l'OTAN. C'est d'une manière ou d'une autre montrer que l'OTAN n'est pas aussi unie, aussi forte qu'elle le prétend. Et effectivement, tout ce qui relève de ce qu'on appelle peut-être improprement la guerre hybride, doit aussi s'interpréter dans ce sens. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de très lourd sur le plan militaire, mais tout simplement de créer une forme de confusion ou d'incertitude sur la solidité de l'OTAN. Ça serait un succès russe.
Bruno Tertrais, on arrive à la conclusion de cette émission. Cette confusion, cette anxiété aussi qui règne sur notre continent par rapport à des menaces, encore une fois, de nature hybride, mais qui vont du terrorisme à la guerre sur le terrain, avec des élections présidentielles en France l'année prochaine, des élections en Allemagne en septembre prochain et un nouveau président à la Maison-Blanche. Comment est-ce que ce sommet, à la fin de la semaine prochaine, peut-il tenir tous ces enjeux à la fois et répondre à ces attentes? Quel genre de discours?
Premièrement, je crois que la question des missions et de la raison d'être de l'OTAN ne se pose plus. Et que s'il y a une question qui se pose, et on l'a bien vu tout au long de notre débat, c'est plutôt le fait de savoir quelles missions doivent être prioritaires et quelles missions doivent être secondaires. Je pense par exemple, pour ma part, que Daesh, ce n'est pas le rôle de l'OTAN, par exemple. Ensuite, l'Alliance n'a pas le choix, et je fais le pari ici, que la déclaration et tout ce qui ira autour de cette réunion sera un message d'unité, un message de fermeté. L'OTAN n'a pas le choix, parce que si elle rate ce rendez-vous, alors tout est perdu. Il y a deux entités qui veulent affaiblir l'Europe et l'OTAN. Il y a d'abord Daesh, il y a ensuite la Russie, pas forcément dans cet ordre. Donc là, je crois que le langage corporel, comme l'on dit, au-delà du discours simplement, devra être extrêmement fort. On espère que Barack Obama jouera son rôle de leader, parce que c'est pas vraiment un leader dans l'âme, mais je crois que ça se passera mieux que les prochaines réunions du Conseil européen. La question reste quand même de savoir comment ça sera perçu à l'extérieur, notamment par Moscou, parce que tout ça, c'est dans les yeux et dans les oreilles
et dans le cœur des autres
que ça se joue.
Merci à vous tous. Donc merci à Bruno Tertrais, Fondation pour la recherche stratégique. Vous avez publié Le président et la bombe chez Odile Jacob cette année. Merci à Alexandra de Hope-Scheffer qui dirige le bureau de Paris du German Marshall Fund et la revue politique américaine. Merci à vous, Thomas Gomard. Vous avez publié un papier très intéressant qui s'intitule Le retour du risque géopolitique. C'est une co-publication IFRI Institut l'entreprise. Merci à Fyodor Loukianov, donc, qui dirige le Russia for Global Affairs, à Xavier Combes, qui l'a traduit. Merci à Eric Scholl. C'est la dernière émission de la saison, et donc je tiens particulièrement à remercier Eric, bien sûr, qui en est un pilier, mais aussi Meryl Moneghetti et Luc-Jean Reynaud, qui ont été fidèles au poste, c'est le cas de le dire, depuis la rentrée dernière. Vous retrouverez cet été, dans le même créneau horaire, chaque samedi, une émission qui s'intitule « Une semaine dans le monde ». Elle sera animée en juillet par Mélanie Chalandon, en août par Isabelle Lasserre. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était donc Luc-Jean Reynaud. À la technique, Pierrick Mancini. À la préparation, comme toujours, Meryl Moneghetti. Et comme chaque samedi, en tout cas pour ce samedi encore, voici Dominique Rousset pour l'économie en question. Passez un très bon été et nous nous réjouissons de vous retrouver le samedi 3 septembre prochain à la même heure. Merci.